Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Bonjour Françoise Verna.
Bonjour.
Alors, comme toutes les semaines, maintenant les auditeurs vont commencer à y être habitués. Nous avons un partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie. Et avec vous, Françoise Verna, nous égrenons les articles qui seront à la une de cette nouvelle édition. On commence par quoi cette semaine, Françoise ?
Alors, donc à la une de ce vendredi 27 mai, nous avons notre dossier consacré à la sécheresse avec une question: va-t-elle s'installer à demeure en Occitanie ? C'est un phénomène qui est directement lié au réchauffement climatique. Mmh. Nous avons notamment interrogé la climatologue Françoise Vimeux, qui rappelle que le sud de la France et la région méditerranéenne est très sensible au réchauffement climatique.
Oui.
Alors, ensuite, à notre une, nous avons comme chaque semaine un grand entretien. Et là, nous avons invité le politologue Emmanuel Négrier, qui est aussi un spécialiste de la culture et de son économie. Donc, il nous a semblé intéressant, à la veille de la saison des festivals, d'aborder cette question sur leur santé, quoi, mm-hmm. Sur leur avenir, leur importance, et leur importance surtout dans l'économie de notre région. Dans un autre registre, nous nous penchons aussi sur un sujet très brûlant de santé publique, la pénurie des personnels soignants, en particulier dans les services des urgences. Nous avons deux articles, à la fois un qui est consacré à l'appel à la solidarité du nouveau directeur de l'Agence régionale de santé qui s'appelle Monsieur Didier Jaffre. Mmh. Et nous revenons sur la mobilisation des agents de l'hôpital de Béziers qui donc sont mobilisés pour obtenir des postes supplémentaires, notamment dans le service des urgences, pour assurer leur mission. Mmh. Côté culture, c'est un coup de cœur, on ne l'a pas encore vu parce qu'elle n'est pas encore bien installée, mais on connaît l'artiste, c'est une très belle exposition qui attend le public à Lunel, avec donc l'artiste international Richard Orlinski et ses œuvres gigantesques qui vont être installées dans la ville à partir de ce dimanche 29 mai. Et on pourra voir de façon complètement gratuite jusqu'au 18 septembre. L'artiste sera d'ailleurs présent pour l'inauguration, le vernissage de cette exposition dimanche. Et nous partons aussi à 7 pour le Festival de la photographie documentaire. C'est la 14e édition. Donc c'est Images singulières. Ça commence ce jeudi 26 mai avec une programmation extrêmement riche qui va nous permettre de nous ouvrir des horizons sur des images qui font sens. Et c'est là aussi gratuit jusqu'au 12 juin. Voilà l'essentiel pour notre une, donc, apparaître le vendredi 27 mai.
Politique, sociale, société, économie, France et internationale, environnement, sport, culture et loisirs, La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors on commence avec, comme vous le disiez, un dossier un peu brûlant, la sécheresse en Occitanie qui risque de s'installer, Françoise.
Oui, tout à fait. Non, on a fait ce choix parce qu'il y a eu des épisodes de chaleur précoce que l'on a vécu là, à partir vers le 18 mai. Mmh. Et donc, ces épisodes de chaleur précoce aggravent la sécheresse. C'est un phénomène donc qui est directement lié au réchauffement climatique.
Oui.
Alors, c'est pas nouveau en Occitanie, puisque déjà en 2020, Météo France constatait que dans notre région, les phénomènes de sécheresse des sols étaient deux fois plus importants que dans les années 1960.
D'accord.
Et donc, pour le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, c'est-à-dire le GIEC, hein,
oui,
qui, je rappelle, regroupe 195 pays membres de l'ONU, cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météo risque de causer des impacts irréversibles, et pousse nos systèmes, qu'ils soient naturels et humains, au-delà de leurs limites d'adaptation. Le problème, c'est qu'il y a un écart entre cette urgence climatique et le niveau actuel de notre adaptation. Hein. C'est pour ça que nous avons donné la parole dans ce dossier avec la climatologue Françoise Vimeux de l'Institut de recherche pour le développement,
oui.
l'IRD. Donc, elle nous confirme bien que nous avons affaire à un exemple d'épisode extrême, mais composite avec des températures élevées pour un mois de mai et un déficit de pluie très important. Bon, elle confirme évidemment que notre région méditerranéenne est très sensible au changement climatique. On aura donc des températures élevées, plus de sécheresse,
oui.
Et donc il y aura avoir des sécheresses à répétition. Et donc le sud de la France va être aussi exposé. Et on connaît bien le phénomène
malheureusement.
Ici aussi à des pluies extrêmes. Donc elle dit que la région Occitanie risque de souffrir. Autre ombre au tableau, c'est que la sécheresse des sols augmente aussi le risque incendie. Donc nous avons aussi un point avec les services incendie. Comment ils se préparent pour cette saison à venir et pour cette période estivale qui va être assez problématique. Mais ce qu'elle nous dit aussi, Françoise Vimeux, c'est que nous pouvons encore agir. Et ça,
oui.
c'est vraiment le message qui est lancé par le GIEC. Qui propose deux modes d'action. Il y a l'adaptation, donc, et il y a la réduction aussi des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, et ce qu'on appelle la neutralité carbone à horizon 2050. Alors, la neutralité carbone, c'est-à-dire notre capacité à récupérer autant de dioxyde de carbone que ce qu'on en émet, en
oui.
fait. Hein.
D'accord.
Il y a aussi l'Institut national de recherche agronomique qui ne reste pas les bras croisés, et qui travaille aussi à l'adaptation des cultures au changement climatique. Hein.
Oui, ça c'est
Mais
très important.
C'est,
la... oui.
c'est extrêmement important avec non plus la monoculture qui rend très vulnérable, mais en mélangeant les cultures, en se diversifiant.
Mmh.
Mais il n'empêche qu'il faut quand même qu'on se stabilise à horizon 2050, disent-ils, à une augmentation qui ne soit pas au-delà des 1,7 degrés. C'est à ce prix-là qu'on aura nos systèmes humains et naturels qui vont pouvoir s'adapter. La question, c'est de savoir où on met le curseur pour agir, sachant qu'on le souligne aussi dans le dossier, les principales et les premières victimes de ce changement climatique, ce sont les populations les plus pauvres,
oui.
les classes populaires. Et donc, on fait le lien, évidemment, entre crise sociale et crise environnementale et climatique, qui sont les deux faces d'une même médaille.
Absolument.
Voilà.
Et donc, si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, cet article sera à la une de la Marseillaise, qui paraîtra en kiosque ce vendredi. On part avec le politologue Emmanuel Négrier, que l'on
oui.
connaît très bien chez Divergence FM, puisqu'il vient faire les débriefs avec nos amis de la politique dans nos studios, des débriefs de chaque élection. Et là, il vous a parlé de l'économie des festivals et de l'importance de cette économie dans la région.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'Emmanuel Négrier, outre ses compétences de politologue, il est aussi un grand spécialiste de l'économie de la culture.
Mmh.
Donc, nous l'avons invité à participer à notre grand entretien hebdomadaire,
oui.
Puisque nous sommes à la veille de la saison estivale, et donc des festivals. Et il nous apprend que l'Occitanie, dans les calculs qu'il a fait avec son équipe, ça représente 15% du total des festivals recensé. Donc
ah oui.
Ce n'est pas négligeable. Alors à ceux qui peuvent dire, et d'ailleurs il dit que c'est un domaine à part ou à part entière, mais il dit quand même que quand on perd un semestre de festival, ce fut le cas aussi pendant la pandémie, c'est quand même plus de 2 milliards d'euros de pertes hein, d'un point
ah
de
oui.
vue économique. Hein.
D'accord.
Donc ce secteur, nous dit-il, est en train de se relever, mais il reste fragile. Sa fragilité, elle est structurelle. En fait, elle tient au statut associatif et non lucratif de l'écrasante majorité des organisateurs et des opérateurs.
Oui.
Ça représente 80% des opérateurs. Hein, c'est quand même très important et c'est un secteur qui doit être extrêmement soutenu parce que sans ces beaucoup de bénévoles et sans les associations, les festivals ne pourraient tout simplement pas se tenir. Il dit aussi dans une formule qui est assez assez frappante que le plus grand ennemi du spectacle vivant et des festivals, c'est ce qu'il appelle le canapé, notre canapé.
Et oui.
Puisque après deux années de pandémie, avec il y a des pratiques culturelles et ce qu'on appelle, c'est pas un terme très heureux, mais ça, c'est le terme, la consommation culturelle,
oui.
elle a énormément changé. Et on le voit aussi dans la fréquentation des cinémas, c'est tout autre chose. Mais les cinémas ont du mal à retrouver leur public parce que les plateformes ont pris une place énorme oui. dans les pratiques culturelles. Donc, il nous explique tout ça, c'est extrêmement passionnant. On regarde plus les choses avec le même regard quand on a toutes les informations que nous livre Emmanuel Négrier.
Mmh.
Il adresse aussi, on le fait réagir aussi sur la nomination de la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak.
Oui.
Alors il dit qu'il faudra, en tout cas lui c'est un souhait, on pense qu'elle devra étendre les marges de manœuvre de son ministère justement.
D'accord.
L'enjeu culturel est extrêmement important. Voilà. Un entretien assez passionnant avec Emmanuel Négrier.
Et en tout cas, ce qu'on peut retenir de ça, chers auditeurs, courez dans vos festivals préférés cet été.
Oui.
On change complètement de sujet. Alors là, oui. on parlait de sécheresse, mais on reste dans un sujet tout à fait brûlant. La pénurie des personnels soignants, en particulier dans les services d'urgence. Et ça, c'est quelque chose qui va nous toucher à tous.
Oui, tout à fait. En fait, nous avons fait le choix de traiter cette question avec deux articles spécifiques. Le premier, c'est l'appel à la solidarité, entre guillemets, qui a été lancé aux urgentistes par le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé d'Occitanie, Didier Jaffre.
Mmh.
Alors, si pour l'instant, il n'y a pas de menace de fermeture des services d'urgence dans nos trois grands CHU de la région, à savoir Toulouse, Montpellier et Nîmes,
mmh.
il y a quand même de grandes difficultés, nous dit l'ARS, à remplir les plannings d'été. D'où cet appel à se coordonner et en gros à se serrer les coudes. L'ARS reconnaît qu'il manque des infirmiers dans les EHPAD et des médecins coordonnateurs. Il y a aussi le secteur médico-social et libéral qui sont touchés.
Mmh.
Il faut savoir, il y a un chiffre très parlant. En matière d'urgence, par exemple, il y a 148 postes, on va dire 148 équivalents temps plein, pour reprendre le jargon, qui sont vacants dans la région.
C'est énorme.
Et il faut savoir que seulement 48 diplômés sortent d'université chaque année.
Donc il faudra plusieurs années pour combler.
Voilà, il faudrait 5 ans pour rattraper ce retard.
D'accord.
Souligne l'ARS. En termes de généralistes, on peut dire qu'on est bien servi en Occitanie, puisqu'on en a 6 000.
Mmh.
Mais il y a quand même plus de 300 000 Occitans qui vivent dans des zones peu dotées. Donc, il y a des actions aussi des pouvoirs publics, et notamment de la région, qui pallient un peu l'absence de politique nationale, puisqu'il y a eu 470 contrats d'aide à l'installation,
oui.
financés notamment par la région, depuis 2018.
Mmh.
C'est vrai que le problème de fond, on le souligne, hein, c'est de donner les moyens aux services publics de la santé de fonctionner. Ça ne concerne pas que les urgences de notre région.
Oui.
C'est pour ça que nous revenons sur la mobilisation des agents d'un hôpital plus petit que ceux que j'ai cités précédemment, qui est l'hôpital de Béziers,
oui.
où ils sont mobilisés, ils réclament, c'est pas le bout du monde, ils réclament 2 postes d'infirmiers, 2 postes d'aide-soignants et 1 brancardier supplémentaire pour la nuit.
Oui, quand vous dites c'est pas le bout du monde, oui, ça paraît peu même.
C'est pas le bout du monde, ils n'ont pas pour l'instant obtenu satisfaction, nous malheureusement la direction de l'hôpital n'a pas souhaité nous répondre,
oui.
Donc ils ont décidé, outre de continuer à se mobiliser, de participer à la mobilisation nationale qui est prévue le 7 juin.
Oui.
Il faut savoir qu'en France, 120 services d'urgence sont contraints de réduire leurs activités. Il nous semblait important de vraiment mettre l'accent sur ce problème qui, comme vous l'avez dit, nous concerne tous.
Oui, qui est très grave. Et je rappelle, en attendant aussi, que certains soignants ou praticiens de santé ont été mis sur la touche car ils n'ont oui. pas été vaccinés pour le Covid.
Exactement.
Et que là, on marche un peu sur la tête quand même. Hein.
Exactement. La question de leur réintégration est vraiment urgente. Quoi.
Mmh.
Tout à fait.
On passe à un sujet plus léger. Hein. On part oui. du côté de la culture avec une très belle exposition à Lunel.
Oui, alors la ville de Lunel a fait vraiment dans le cadre de on va dire c'est pas de son opération qui s'appelle Lunel Ose, ben là ils ont osé inviter un grand artiste international qui s'appelle Richard Orlinski. Mmh. Alors peut-être que le nom ne dit rien aux auditeurs, mais ils connaissent forcément les œuvres, puisque c'est lui qui fait ces grandes des grands animaux sauvages en résine très colorée, mmh, et que l'on peut voir dans des lieux publics, hein, mais pas dans notre région encore. Ça va être le cas à partir de ce dimanche 29 mai et jusqu'au 18 septembre. C'est ça qui est bien, c'est que ça dure vraiment longtemps. Mmh. Donc ce sont des œuvres gigantesques qui représentent donc des animaux sauvages, souvent menacés ou en voie d'extinction. Donc c'est une démarche qui permet vraiment d'amener l'art et le musée dans la rue. Donc 6 grandes œuvres vont être installées dans les rues de Lunel,
oui,
et 31 petits formats d'œuvres en petit format réduit vont être exposés à l'espace Feuillade.
Oui.
Donc on pourra croiser un grand dragon, un grand gorille, même un ours blanc dans les rues. Et l'artiste sera présent dimanche pour l'inauguration de cette grande exposition.
D'accord.
Et c'est vraiment un grand événement dans une ville qui mérite d'être, on va dire, j'irais presque dire, un peu réhabilité
oui, absolument,
dans les médias. Quoi. Voilà.
C'est ce que j'allais dire, une belle occasion pour se diriger vers Lunel, et
exactement,
une belle occasion aussi de féliciter la politique culturelle qui essaye de mettre en place la ville de Lunel, qui
exactement,
communique beaucoup dessus.
Vraiment, on a hâte de voir cette exposition se déployer dans les rues de Lunel.
On quitte Lunel pour se diriger vers Sète. Alors là, avec quelque chose que personnellement, un festival que j'adore, le Festival de la photographie documentaire Images singulières, oui, qui est vraiment un temps fort, vraiment, on peut dire, sur la ville de Sète.
Oui, c'est un temps fort. Alors Sète, évidemment, c'est une ville qui déploie énormément d'événements. Mais Images singulières, cette édition, la 14e, hein, va nous plonger dans notre société et dans notre monde, hein, mmh, puisque par l'image on peut vraiment à la fois s'ouvrir des horizons c'est une lecture de notre histoire.
Absolument.
Il va y avoir énormément d'expositions, mais qui sont très différentes. Par exemple, il y a le travail du Suédois Kent Klich, que je ne connais pas du tout, mais qui, après 20 ans de photographie, il a photographié pendant 20 ans des résidents d'un hôpital psychiatrique en Russie. Il y a Camille Garbi qui a réalisé une série photographique sur les féminicides. Mmh. Donc il y a des choses très fortes. Hein, donc il faut aller découvrir ce qui est aussi extrêmement positif, c'est que c'est un accès gratuit. Mmh. Et parfois, c'est vrai que la gratuité en matière d'accès culturel, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, cultiver. On a aussi une photographe du Sud, hein, qui est Johan Lamoulaire,
oui,
qui a fait toute une série qui s'appelle Fragile. On a aussi Alexis Vettoretti, mmh, qui a fait toute une série de portraits qui s'intitule Paysanne.
Oui.
On a vraiment, à travers l'image, un tour d'horizon de notre monde et de tout ce qui le travaille.
Oui.
Et donc c'est une forme, la photo, avec, la démocratisation, le fait que tout le monde peut prendre des photos.
Et oui.
Mais la photo documentaire, là, elle retrouve toute sa légitimité avec ce genre de festival qui sont vraiment d'une qualité artistique remarquable, parce que c'est aussi de l'art. Mmh. On est entre l'art et le documentaire. Et l'image, parfois une image peut aussi changer notre perception des choses et nous faire réfléchir. Et c'est ça qui est extrêmement, extrêmement positif et passionnant.
En tout cas, vous avez très bien résumé, je trouve, ce festival. On vous invite vraiment à y courir à ce festival. Il ne faut surtout pas le manquer.
Oui,
même si
jusqu'au
vous...
12 juin.
Absolument.
Jusqu'au 12 juin.
Et même si vous n'êtes pas un aficionados de la photo, allez-y quand même.
Oui, tout à fait.
En tout cas, tous ces articles sont à retrouver à partir de vendredi en kiosque dans le journal La Marseillaise. Et puis, je vous invite aussi à vous rendre sur le www.lamarseillaise.fr pour avoir ces articles et des contenus additionnels. Merci beaucoup, Françoise. Et on
Merci.
Se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Très bonne journée, très bonne semaine.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.